Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Radio Graphite 94.9, je suis Stéphane, nous allons écouter aujourd'hui des étudiantes et étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne présenter les projets qu'ils et elles ont menés cette année au sein du cours IS03, Low Technicisation et Numérique à l'UTC donc. Alors on est ensemble jusque 16h, on va voir passer aujourd'hui 5 groupes. Je salue pour commencer Emma, Mathieu, Maud et Aurélie qui sont dans le studio avec moi pour la première présentation. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors l'objectif de ces projets, on va avoir la première présentation dans quelques instants. L'objectif de ces projets, eh bien, c'est d'imaginer des outils numériques low technicisés. Alors low technicisés, ça veut dire qu'ils visent à plus de soutenabilité et ou de convivialité. Soutenabilité, c'est, pour simplifier, réduire l'empreinte numérique de l'outil numérique lui-même, ou bien concevoir un outil numérique qui permet de réduire l'impact d'autres objets. Convivialité, eh bien, c'est chercher à bien vivre avec les objets, par exemple savoir comment ils fonctionnent, savoir les réparer, les partager, ne pas en être dépendant. Vous pourrez retrouver les concepts et les projets associés à ce cours sur le site lonum.fr. Si vous souhaitez poser des questions pendant l'émission, eh bien, vous pouvez le faire sur le média social Mastodon avec le tag lonum ou bien à l'adresse pad.picasoft.net/p/IS03. Et donc, comme promis, on va commencer avec le premier projet. Donc, ce projet s'intitule « Le chaton sportif ». Donc, l'objectif est de créer un serveur informatique hébergé grâce à l'énergie sportive de cyclistes. Eh bien, Emma, si c'est bon, c'est parti pour toi.
Donc bonjour à tous, et nous sommes en charge du projet de conception Le Chaton Sportif. Donc ce projet a pour objectif principal de produire de l'électricité à partir d'un vélo afin d'héberger des serveurs libres. Donc je vais brièvement décrire le dispositif. Alors il s'agit d'un vélo qui est relié à tout un système électrique composé de générateurs et d'alternateurs, lui-même connecté à un nano-ordinateur, ici un Android. Donc un nano-ordinateur, c'est un tout petit ordinateur de la taille d'une carte bancaire qui consomme beaucoup moins d'énergie qu'un ordinateur classique et qui est donc beaucoup plus frugal. Bien sûr, ce projet comporte des risques, le plus important étant qu'il entraîne la production de nano-ordinateurs et systèmes électriques qui coûtent très cher en terres rares, en eau et en énergie en général. Mais il a également des bénéfices, comme par exemple sensibiliser le public au réemploi d'objets, à la production d'énergie propre ou encore au serveur frugo. Enfin, rapidement pour terminer cette introduction, quelques définitions. Donc tout d'abord, un chaton, c'est en fait le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libre, éthique et décentralisée. Il nous semble également important de définir ce qu'était un hébergeur et un serveur. Donc tout d'abord, un hébergeur web désigne l'entité qui propose le service d'hébergement d'un site web. Elle dispose de serveurs connectés à Internet sur lesquels sont stockées les données du site web. Et enfin, un serveur web, c'est un ordinateur qui stocke les fichiers qui composent un site web à héberger.
Nous allons maintenant passer un petit extrait Internet. Internet est une pollution virtuelle, publiée par la chaîne YouTube de la chaîne télévisée France 24, le 3 mai 2017.
Polluer, pour vous, c'est quoi ? Utiliser sa voiture, jeter un sac plastique à la mer, une cigarette par terre ? Certes. Mais il existe une pollution beaucoup moins visible, celle au bout de vos claviers.
Si Internet était un pays, ça serait le 5 ou 6e plus gros consommateur d'électricité mondiale après les États-Unis, la Chine et la Russie.
Nous avons eu deux idées phares pour notre projet. Donc la première est que le mécanisme convertisseur d'énergie sportive en énergie électrique donc serait exposé dans une structure en plexiglas sur laquelle il y a des posters explicatifs de son fonctionnement. Et donc le système serait exposé dans divers lieux publics et nous allons ainsi faire une histoire afin de mieux illustrer notre projet et le visualiser. Donc notre histoire est donc Mathis, 8 ans, qui se promène avec ses parents dans un centre commercial et aperçoit dans le hall un espace avec des cyclistes et vélos reliés à un mécanisme cloisonné par du plexiglas. Des petits posters collés sur le plexiglas lui expliquent de manière simple, avec des dessins, comment l'énergie du cycliste est transformée en énergie électrique. En effet, pour faire tourner le moteur et produire de l'énergie, le système utilise la friction. La roue arrière en tournant va frotter sur le galet fixé au moteur et donc le faire tourner et ainsi produire un courant continu. L'électricité produite passe ensuite par un régulateur, donc ce qui est un égalisateur de courant, et ensuite va être soit connectée à une batterie ou à un hébergeur web directement. Ainsi, le système permet de transformer de l'énergie cinétique en énergie électrique pour alimenter les hébergeurs web. Il permet aussi à n'importe quel public de se sensibiliser sur l'impact du numérique et permet d'expliquer le fonctionnement du vélo alimentant le serveur de façon simple, donc ce qui correspond à de la convivialité. En termes de soutenabilité, le système produit de l'énergie grâce à de l'énergie sportive et non pas d'énergie fossile. Cependant, les matériaux électriques permettant la collecte de l'énergie, comme les batteries, les chargeurs, les câbles, ils demandent par leur fabrication un impact sur l'environnement, car ils nécessitent beaucoup d'énergie pour extraire les terres rares. Cependant, une fois ces machines obtenues, la transformation d'énergie à partir de ce dispositif peut être considérée comme soutenable, car ne nuit pas à l'environnement. Et ce projet comprend plusieurs leviers, donc optimiser, imaginer et alerter. Optimiser, c'est-à-dire qui est propre à l'ingénieur sur le terme de la conception. Le système, il va transformer de l'énergie des cyclistes en énergie électrique pour alimenter des hébergeurs de sites web. Pour le levier imaginer, donc ce levier permet de remettre en cause la question donc initialement posée à l'ingénieur et il permet donc en situation de ce que cela fait au mode de vie du système. Donc cela permet d'améliorer des connaissances de chacun et ainsi qu'il les partage à son tour. Et le troisième levier est le levier alerté, qui par exemple est en vue de modifier et de déclencher des actes politiques. Et donc comment cela pourrait impacter les décisions collectives. Et ce système permet de sensibiliser sur l'impact du numérique et qu'il nécessite d'électricité donc, pour fonctionner et que celle-ci donc, a de la valeur. On doit donc dépenser une certaine quantité d'énergie musculaire afin d'alimenter un serveur pour héberger un site web.
Bonjour à tous, c'est Mathieu et je vais vous présenter la deuxième idée phare de notre projet. Donc l'énergie produite alimentera un nano-ordinateur qui permet d'héberger le site de l'association mais également une interface utilisateur sur laquelle la personne peut gérer ses services numériques et observer ses performances en temps réel. Une petite histoire pour illustrer cet aspect du projet. Thomas est en train de pédaler sur le vélo depuis maintenant une heure. Par curiosité, il se demande quelle quantité d'énergie produit-il. Il sort son téléphone de sa poche et se connecte sur le site des chatons sportifs qu'il participe à héberger. Il va sur l'interface utilisateur, voit une section concernant l'administration de son serveur et une autre concernant ses statistiques de performance. Il clique sur cette deuxième section et observe les différentes informations proposées. On lui affiche entre autres combien de kilomètres il a parcouru depuis le début, sa vitesse en kilomètres par heure actuelle, mais également sa production d'énergie actuelle. Il lit donc 153 watts. Thomas, par ailleurs, héberge depuis son système un forum sur lequel il y a eu beaucoup d'informations échangées ces dernières semaines. Il faut donc qu'il sauvegarde toutes ces données afin de ne pas les perdre. Il va sur la section « Administration du serveur » et crée une nouvelle sauvegarde. Il ne lui suffit plus qu'à attendre la fin du processus, puis de quitter le site. Nous nous sommes donc demandé, est-ce que cet aspect du projet est soutenable ? Dans un premier temps, nous nous sommes dit non, parce que ces nano-ordinateurs, il faut les concevoir. Cela coûte de l'énergie, cela coûte des matériaux comme des terres rares. Mais en réfléchissant un peu plus, nous nous sommes dit que d'un autre côté, oui. Parce que cela permet d'héberger le serveur de l'association d'une manière sobre et fiable. Et cela permet aussi de donner aux utilisateurs une alternative à d'autres services numériques qu'ils pourraient utiliser, qui seraient plus polluants. Nous nous sommes ensuite demandé, en termes de convivialité, est-ce que cet aspect semble-t-il correct ? Dans un premier temps également, non, car l'utilisateur pourrait chercher à avoir toujours de meilleures performances et pourrait devenir, entre guillemets, addict au fait d'administrer ses propres serveurs numériques. Après réflexion, cet aspect paraît quand même très convivial parce que cela permet à l'utilisateur d'avoir une grande autonomie dans les services numériques qu'il utilise, puisque c'est lui-même qui les administre. Enfin, dernière question, quel levier de la low-technicisation cet aspect de notre projet actionne ? Tout d'abord, le levier alerté, évidemment, parce que cela donne plein d'informations sur les performances et l'énergie qu'il produit en temps réel. Et cela permet également aux cyclistes de se rendre compte concrètement de comment les services numériques fonctionnent et de comment les gérer. Et enfin, également le levier imaginer, car cela permet d'imaginer un nouveau mode de vie où les utilisateurs de services numériques administreraient et seraient en autonomie par rapport à leurs serveurs et leurs services informatiques.
Nous allons maintenant vous passer un petit extrait, donc Email Cloud Data Center, c'est Click qui pollue, publié par la chaîne YouTube Le Temps le 4 mai 2019.
Tous les serveurs informatiques sont regroupés dans ce qu'on appelle des data centers. On estime qu'il y en aurait environ 8,5 millions dans le monde. Alors il faut évidemment beaucoup d'électricité pour faire fonctionner toutes ces machines, mais aussi pour les refroidir parce qu'elles chauffent énormément. En 2016, tous les data centers du monde auraient consommé environ 416 TWh d'électricité. À titre de comparaison, un pays comme la Suisse, en 2016, a consommé seulement 58 TWh d'électricité. C'est bien simple, si Internet était un pays, eh bien, il serait le troisième plus gros consommateur mondial d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Alors évidemment, tout dépend à quoi carburent ces data centers. Si on les nourrit avec des énergies fossiles, forcément, ils vont émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, ce qui va contribuer au réchauffement climatique. Sur une journée de travail, entre tous les courriers que vous allez envoyer et recevoir, eh bien, ça correspond aux émissions, en moyenne, d'un trajet de 11 km en voiture à essence, auquel il faut rajouter 11 packs d'eau nécessaires au refroidissement des data centers.
Ok, donc nous avons vu dans cette étape de maquettage, nous avons présenté notre dispositif et ses principaux concepts. Mais en fait, il existe déjà aujourd'hui des types de dispositifs similaires. Et c'est ce que nous présentons dans notre étain de l'art sur notre site internet. Donc par exemple, il existe des logiciels facilitant l'auto-hébergement, comme Unohost. Donc Unohost, c'est un projet de logiciel libre à but non lucratif qui simplifie l'administration de son propre serveur dans le but de démocratiser l'auto-hébergement. Il propose une interface simple et ergonomique pour gérer son propre serveur, des applications déjà programmées à installer et plein d'autres choses. Nous avons également trouvé un site web, celui de Lotech Magazine, qui explique comment installer son propre vélo générateur d'électricité chez soi. Il détaille tout, des batteries au voltage ainsi qu'aux câbles nécessaires. Dans leur site, ils expliquent également à quelle vitesse pédaler pour alimenter divers types de matériel, comme par exemple un frigo ou une batterie. Ces deux projets existants nous ont été très utiles et c'est pour ça qu'il nous a semblé pertinent de les présenter aujourd'hui.
Donc, nous avons eu plusieurs outils d'auto-évaluation à notre disposition. Donc, pour auto-critiquer notre projet, donc nous avons décidé d'approfondir l'outil de l'effet rebond. Donc, on va se poser la question, tout d'abord, quels sont les effets directs que nous avons analysés? Donc, on imagine alors que dans 3 ans, le dispositif Chaton Sportif s'est développé. Les effets directs peuvent se manifester par le fait que les services web frugaux se sont démocratisés. Donc les personnes commencent à les utiliser sans nécessité et seulement par effet de mode. Et d'autre part, les utilisateurs peuvent utiliser ce système propre comme excuse pour faire moins attention à leur impact énergétique et environnemental. Donc finalement, le problème de consommation est déplacé sur un autre secteur. Donc, mais alors, quels peuvent être les plans d'action pour lutter contre ces effets identifiés ? Donc nous avons pensé que le mécanisme pourrait être loué en fonction de l'usage des utilisateurs. Et enfin, on pourrait sensibiliser les citoyens par rapport aux autres dépenses énergétiques inutiles du quotidien. Donc on pourrait développer la campagne de communication du chaton sportif pour les limiter. Maintenant, on imagine que dans 10 ans, notre système chaton sportif s'est généralisé. Quels sont les effets indirects ? Donc on imagine que les gens ne pédalent plus à l'extérieur, mais qu'en intérieur pour produire de l'électricité en même temps. Ensuite, tout le monde veut son propre service numérique personnel, entraînant plus d'énergie nécessaire au détriment d'autres choses. Et enfin, on pourrait penser que cela créerait de la discrimination envers les personnes qui ne sont pas en état de produire de l'énergie sportive. Donc nous avons trouvé différents plans d'action pour lutter contre les effets rebonds que nous avons identifiés. Donc nous pourrions créer un système sur le vélo produisant de l'énergie qui fonctionne également en extérieur. On pourrait aussi utiliser des clusters pour héberger de manière fiable certains services numériques. Et enfin, on pourrait diversifier la gamme d'équipements sportifs pour toucher le plus de personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Eh bien, merci à vous de cette présentation. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le pad, donc je vais vous poser. Peut-être juste avant, vous avez utilisé le terme d'effet rebond. Est-ce que vous pourriez, l'un ou l'une d'entre vous, en une ou deux phrases, expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Ou est-ce que vous voulez que je le fasse, sinon mais...
L'effet rebond, donc, c'est une notion du vocabulaire d'abord économique qui désigne un accroissement de la consommation provoquée par la réduction des limites qui étaient jusque-là posées à l'usage d'un bien, d'un service ou d'une technologie.
Ouais, hein, l'origine, on le connaît aussi sous le terme de paradoxe de Jevons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on en a discuté en cours. L'origine, c'est que, par exemple, dans le domaine du charbon, en optimisant les machines à vapeur, on s'est dit que du coup, on allait réduire la quantité de charbon. Mais comme on optimise les machines à vapeur, consommer du charbon, ça coûte moins cher. Comme ça coûte moins cher, on en utilise plus. Et la conséquence, c'est que 150 ans après ces optimisations, on consomme plus de charbon qu'avant, alors qu'on espérait en consommer moins. Donc c'est ce qu'on appelle un effet rebond. Et c'est un des exemples d'effets indirects, et vous en avez cité d'autres. Alors je vous propose qu'on enchaîne sur les questions. Une première question peut-être, c'est je vous pose, il y avait deux questions en une, c'était est-ce que vous avez envisagé le stockage ou pas de l'énergie dans votre dispositif ? Donc est-ce que votre dispositif stocke de l'énergie ou pas ? Est-ce qu'il y a des batteries ? Et puis question associée, s'il y a des batteries, combien de temps en fait, il faut pédaler combien de temps pour faire fonctionner l'ordinateur, combien de temps ? Et où s'il n'y a pas de batterie, eh bien est-ce qu'une une personne qui pédale doucement, ça suffit ou pas pour faire fonctionner les services ?
Pour la première question, est-ce qu'on a envisagé de stocker de l'énergie dans des batteries ? Alors oui, on l'a envisagé. Ça pourrait créer de nouveaux avantages. On pourrait alimenter nos serveurs tout en se déplaçant, parce qu'on pourrait, par exemple, imaginer le même type de système, mais mobile, et faire du vélo. Et pendant que tu fais du vélo, tu peux utiliser ton site, tu peux administrer tes serveurs. Mais nous nous sommes dit que, au final, le but principal de ce projet, c'était de faire quelque chose qui était frugal et qui ne dépensait pas de l'énergie de manière inutile. Et les batteries, il faut les produire, c'est plein de terres rares, l'extraction est très polluante. Donc au final, on s'est dit que ce serait une idée qu'on garderait dans un coin du projet. Si on visite le site, on pourrait voir dans les différentes pistes que c'est évoqué, dans les différentes idées. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas une idée que nous mettons en avant, ce n'est pas une idée phare.
Ok, donc pas de batterie, et est-ce que une personne qui pédale, ça suffit à faire fonctionner l'ordinateur ? Il faut pédaler fort, vous avez mesuré un peu ça ?
Alors oui, donc il faut savoir qu'une personne pédalant sur un vélo produit entre 100 et 200 watts. Si on considère que c'est une personne assez lambda et pas trop sportive, c'est autour d'une centaine de watts. Et si en plus de ça, on considère des pertes liées au frottement ou à plein d'autres choses, et même des grosses grosses pertes, on peut descendre jusqu'à 50 watts. Alors que le droïde, il a besoin que de 20 watts pour fonctionner. Donc en fait, on se rend compte qu'une personne lambda, même un enfant, est capable d'alimenter sans aucun problème, sans avoir besoin de pédaler fort, ses nano-ordinateurs.
Ok, merci pour cette première réponse. Allez, j'en ai une question associée. Vous avez parlé de l'odroïde. Donc il y a d'autres types de nano-ordinateurs ou d'ordinateurs qui existent. Vous avez fait une petite étude comparative ou simplement vous avez pris celui-là parce que c'était le premier qui venait ?
Alors non, on s'est bien renseigné avant. On a un peu étudié tous les nano-ordinateurs qui existent. Bon, c'était pas très compliqué, il y a grosso modo deux marques. Il y a le Raspberry Pi, c'était le premier modèle de nano-ordinateur. Hein. C'était développé dans l'université de Cambridge pour démocratiser l'accès à l'ordinateur. Et peu à peu, une autre grande marque, une autre série d'ordinateurs s'est développée coréenne, c'est les Odroid. Donc on avait grosso modo un choix à faire entre ces deux types de nano-ordinateurs. On a étudié un peu leur capacité, leur coût en énergie, etc. Et on s'est rendu compte que l'Odroid, plus particulièrement l'Odroid XU4 ou XU4, je ne sais pas comment on dit, serait sûrement celui qui serait le plus adapté à ce qu'on voudrait. Il est capable de gérer des tâches assez complexes, allant jusqu'à des traitements de photos, de vidéos. Et il peut être branché à un système de stockage externe. Et son prix n'est pas si cher que ça. Hein. On a compté autour de 50 euros. Donc on s'est dit, en comparaison, que ça serait le plus pertinent à choisir.
Ok, vous n'avez pas fait d'études sur... j'imagine que c'était très difficile d'avoir ces données, mais est-ce que vous avez réfléchi à étudier aussi si les modes de production, par exemple, du Raspberry Pi ou de l'Odroid, étaient, s'il y en avait qui étaient plus avantageuses que les autres, d'un point de vue, par exemple, de l'impact environnemental ou des conditions de production ou ce genre de choses? Vous êtes allé jusqu'à ce genre de questions? Pas forcément, hein, mais...
Non, on n'est pas allé chercher, on n'a pas approfondi de ce côté-là et on ne sait pas encore si l'une est mieux par rapport à l'autre.
Par contre, en termes d'approfondissement, on s'est aussi penché par contre sur les types de matériaux qu'on pourrait utiliser pour notre dispositif. Donc par exemple, on a cherché par rapport au support, parce que par exemple les supports, le vélo, il faut le maintenir debout. Donc on s'est posé des questions, si ce support doit être en métal, doit être en bois, d'où vient le bois. Et on en est venu à l'idée de faire des supports donc maison, donc à partir de bois de palette, donc c'est carrément du recyclage et c'est aussi très bien pour le porte-monnaie parce que c'est gratuit, on peut le récupérer facilement. Et on s'est aussi posé la question et on s'est dit pour les vélos, donc ils seraient récupérés donc soit sur des sites de seconde main ou bien avec des dons, parce qu'on a juste besoin en fait du pédalier et donc et de la structure, donc on n'a pas besoin qu'il y ait les freins qui marchent, etc. Et aussi pour tout ce qui est donc matériaux, donc de récupération d'énergie, qui va être transformateur ou le moteur, on peut aussi les récupérer parce que voilà, c'est une partie de l'allotechnicisation.
Ben merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, peut-être en ouverture. Est-ce que le système, selon vous, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à sa démocratisation, sa généralisation à plus grande échelle? Donc, par exemple, est-ce que on pourrait le mettre à domicile? Est-ce qu'on pourrait le mettre dans des bureaux? Peut-être dans des salles de classe? Est-ce que ça pourrait être dans des écoles, des villes entières qui en disséminent, etc. Vous avez réfléchi un petit peu à ces aspects-là ou pas encore?
Oui, on a réfléchi à ces aspects et on a même pensé à faire des présentations du système dans des halls. Et comme ça, après, on pourrait installer ce dispositif chez des particuliers afin qu'ils l'utilisent. Et on pourrait, du coup, avec les affiches explicatives et les petits posters sur les plexiglas, comme on a parlé Aurélie au tout début, expliquer comment fonctionne et comment les former sur le système et pour qu'ils puissent aussi le réparer.
Nous avions aussi réfléchi à, par exemple, installer des dispositifs dans des salles de sport pour que des gens qui ont une pratique sportive régulière soient... LRT, c'est ce moyen de produire de l'énergie, donc ce serait un moyen assez efficace parce que les salles de sport sont quand même assez fréquentées. Et on pourrait en installer plusieurs. Et en plus, du coup, en plus de. Une salle de sport, pardon, ça consomme beaucoup. Et donc, ce serait un bon moyen d'essayer de consommer un petit peu moins.
Ouais, en fait, juste de manière générale, on a voulu mettre un point d'honneur sur la partie pédagogique et sur la sensibilisation du projet que pourrait avoir sur les gens autour. Donc, le mettre sur des lieux publics, c'est pour ça qu'on a pensé à, par exemple, mettre. Comme on en a parlé, une boîte en plexiglas autour pour qu'on puisse voir le mécanisme avec des fiches explicatives. Le but, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'attirer la curiosité des gens pour que les gens viennent, puissent voir et se disent « Ah putain, en fait, on peut produire de l'électricité en faisant du vélo, on peut gérer nos propres serveurs, etc. etc. »
C'était pour prouver que c'était du direct. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on conclut là-dessus?
Pour compléter ce qu'a dit Mathieu, en termes donc de pédagogie aussi, c'est ce qui est très important, c'est qu'il va vous permettre de sensibiliser et d'alerter donc, la population, donc les gens, et se rendre compte que pour faire et produire de l'énergie, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un claquement de doigts. Il faut produire du travail, donc de l'énergie sportive. Et donc ici, par exemple, les gens, ils vont tester et produire leur propre énergie, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça et c'est assez éprouvant.
Ok, bah vous avez effectivement bien insisté sur cet aspect. Hein. On va le découvrir à travers d'autres projets, mais l'objectif des projets effectivement qu'on mène en IS3, c'est pas forcément de trouver des solutions magiques pour continuer de produire ou d'utiliser des objets comme on le faisait avant. Et donc dans le cadre de votre projet, eh bien c'est bien effectivement faire prendre conscience de, comme tu viens de le dire, du coût humain ou environnemental qu'il y a derrière les objets qu'on utilise, et peut-être notamment pour décider, eh bien soit d'en prendre plus soin ou d'en avoir un peu moins, ou de les utiliser un peu plus longtemps. Eh bien, Emma, Mathieu, Maud et Aurélie, merci beaucoup à vous. Je vous dis au revoir. Et puis, donc ensuite, on va avoir un second projet qui démarrera d'ici 5 à 10 minutes, le projet Kosoko, où on va parler de comptabilité d'impact environnemental du numérique. Mais en attendant, on va écouter un petit peu de musique, le temps de aérer un petit peu le studio et changer de participants. Au revoir à vous.
Au revoir. Au revoir.